En fait, je me présente, je m'appelle Hassan Alami, je suis étudiant au doctorat en santé communautaire, organisation des soins et services à l'Université Laval. Je travaille sur la mise en place, l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, notamment la télésanté, mais je la touche un petit peu dans le sens large des aspects organisationnels, politiques, économiques, mais aussi du point de vue du patient. Ma question de recherche doctorale, c'est vraiment s'est focalisé un petit peu sur l'aspect usager du service de santé, comment on pourrait associer les patients et usagers de service à la mise en place des programmes de télésanté. En fait, j'avais le choix de présenter trois sujets, un sur les conditions de succès, mais je me suis dit que ça a peu d'intérêt, mais ça interpelle moins. Il y a un autre, en fait, un autre sur un article qui vient d'être accepté sur l'état des considérations, la télémédecine au Québec, l'état des considérations légales, juridiques et déontologiques qui vient d'être accepté pour publication. Et finalement, j'ai arrêté mon choix sur un autre sujet qu'il est peu traité et vraiment ignoré en termes de recherche. Cette question m'a interpellé parce que c'était une de mes questions d'examen de synthèse. Et finalement, j'ai décidé de l'intégrer dans mon projet de doctorat. Donc la question qui m'a été posée, c'est quelles sont les répercussions négatives réelles ou potentielles de la mise en place de la télésanté. Donc, je vais présenter plutôt une revue de littérature assez générale, le résultat de mes travaux et les axes que j'ai, les points que j'ai identifiés en fait. Donc, pour l'instant, mais je prévois en fait faire une revue systématique et développer et proposer un cadre sur les conséquences inattendues et non désirables de la télésanté. Donc, pour faire aboutir cette présentation, je vais suivre à peu près le plan suivant. Donc, avant de partir, vu que je travaille dans le contexte québécois, donc je me base toujours sur la définition du ministère de la Santé qui est donnée en 2001, qui définit la télésanté comme des soins et services de santé, des services sociaux, préventifs ou curatifs, rendu à distance par le biais d'une télécommunication, incluant les échanges audiovisuels afin d'information et éducation, recherche, traitement de données, clinique, administrative, etc. Donc, le contexte, c'est que la télésanté, le discours actuel, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes sur le rôle de la télésanté en général et la télémédecine, et sa place comme levier vraiment de transformation des systèmes de santé. Donc c'est ce qui sort vraiment au niveau de la littérature internationale. Elle est considérée comme un outil d'amélioration de la prestation, mais aussi de la continuité des soins et des services. Il y a tout un discours qui est construit sur le rôle de cette innovation, avec beaucoup d'attentes sur sa capacité à améliorer la qualité, la continuité des soins. Mais il y a de plus en plus d'auteurs et de recherches qui commencent à... C'est comme on parle de voix dissidente, là, qui commencent à se dire qu'il faut peut-être à un certain moment s'arrêter, à atterrir sur le terrain, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut discuter, surtout beaucoup d'interrogations du point de vue éthique, organisationnel, justement politique, mais aussi économique, etc. Et aussi, ces auteurs aussi parlent d'éventuelles répercussions négatives. C'est bon, avant la pause.
T'as pris la pause.
Oui, c'est ça.
C'est des éventuelles répercussions négatives.
J'ai raté ma. J'aurais fait un bon modèle, mais bon. Donc, l'objectif de ce petit travail, c'est de discuter un petit peu et analyser les répercussions négatives, potentielles ou réelles, bien sûr, de la télésanté. Je m'attarde sur quatre points que j'ai identifiés dans ma revue de littérature exploratoire, on va dire. Un point qui touche à peu près à la relation patient-professionnel de santé, un point qui parle un petit peu sur la sécurité de l'information médicale, un troisième point qui touche un petit peu au recrutement, la rétention des professionnels de santé que AFO tout à l'heure avait abordé plus ou moins, et un point aussi qui aborde la question des potentielles dérives et de la pratique transfrontalière de la télésanté. Ce point, en fait, on l'a détaillé dans l'autre article, si ça vous intéresse, je vous enverrai les liens dès qu'ils sont en ligne, en fait. Donc ma revue de littérature, c'est des articles scientifiques révisés par des pairs. Je ne suis pas, j'ai pris en compte au maximum possible les articles empiriques, mais il y a aussi des articles analytiques qui ont été, par exemple, rédigés aussi par des philosophes, parce qu'il y a du matériel très, très intéressant à ce niveau-là. Pas de limitation de date pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur cette question, et ça aussi, c'est révélateur d'un état d'esprit de la recherche aussi. Publication en français ou en anglais avec des bases de données que vous connaissez plus ou moins. Là, je complète aussi mon travail avec des entrevues avec des personnes clés, des spécialistes de télémédecine, des professionnels de santé, mais aussi vu que je m'intéresse à la perspective patient de mon projet doctorat, je vais essayer d'intégrer cet aspect-là dans mes recherches. Donc, les résultats préliminaires, pour le premier point, en fait, les travaux ont sorti un élément intéressant, c'est qu'on se retrouve dans des configurations de soins où la technologie se retrouve au centre de la relation médecin-patient. Ça veut dire qu'on a une étape supplémentaire à surmonter et à franchir entre le médecin et le patient. Donc on a toutes les considérations et les risques liés à la... On a des termes comme la dépersonnalisation, l'aliénation et l'objectivation même du patient qui sortent de la littérature. Certains auteurs aussi accusent l'aspect mécaniste de la télésanté parce que, ils expliquent ça par le fait que la technologie ne fera que détacher davantage le médecin de son patient. Donc il y aura toute l'altération de l'empathie justement nécessaire à l'exercice médical. Il y a le risque de la déshumanisation de l'acte médical que Afo tout à l'heure avait soulevé aussi, c'est intéressant. Et bien sûr, dans une période où on parle beaucoup des soins centrés sur le patient, apparemment la télésanté fait l'inverse parce que justement on centre la pratique sur le médecin, non sur le patient. La télésanté aussi se traduit par une pratique collaborative avec la présence d'autres participants. Par exemple, quand un médecin référent fait appel à un collègue à lui ou plusieurs collègues pour discuter le cas du patient, on se retrouve dans des configurations où il y a on fait reculer le patient au deuxième degré parce que la discussion se tient finalement entre les spécialistes. Donc il y a toute une inhibition et un désengagement du patient dans cette discussion parce qu'il y a aussi l'aspect lié à l'asymétrie de l'information. Donc ce qui peut avoir des répercussions, par exemple, considérables sur l'information qu'il va fournir justement parce qu'il est perturbé ou il est inhibé. Il y a aussi tout l'aspect, par exemple, les exigences actuelles. Il y a le nouveau énoncé du Collège des médecins du Québec qui vient de sortir le mois de janvier, je pense, en 2015. En fait, il statue sur un certain nombre de conditions, dont des salles de consultation, ce qu'on appelle les salles neutres. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment des salles dédiées à la téléconsultation, mais certains travaux font émerger un certain nombre d'éléments que ces salles permettent, augmentent le stress, le mécontentement, l'insatisfaction du patient. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres travaux aussi qui disent l'inverse. Par exemple, en psychiatrie, les patients semblent être plus libérés à parler de leurs problèmes. L'aspect lié à la dépersonnalisation, certains auteurs parlent de la construction de nouvelles inégalités entre la qualité de la médecine traditionnelle et la qualité en termes d'actes de télémédecine. Sur le point lié qui touche à la sécurité de l'information, protection des patients, je pense que ça peut même faire juste un sujet de recherche en soi, même plusieurs sujets de recherche en soi, parce qu'on a plusieurs nouvelles formes de données qui sont là, des photos, des données électroniques. Les considérations, par exemple, au Québec, le contexte, c'est que le législateur dit qu'il y a une obligation que toutes les données des patients soient hébergées au Québec. Mais le problème, c'est qu'il faut définir c'est quoi l'hébergement, parce qu'on peut avoir un serveur au Québec, qui est physiquement au Québec, mais on peut avoir accès à l'information à l'extérieur du Québec. Donc, on a un déplacement aussi de l'information. Donc, c'est ce qui amène à poser beaucoup de questions au niveau de la traçabilité, l'accès et la sécurité. comme j'ai dit tout à l'heure, la télésanté aussi, l'un des points forts, mais du point de faiblesse aussi de la télésanté, elle permet d'avoir des pratiques en réseau, avec des prises en charge collectives. Ça veut dire, théoriquement, un meilleur suivi, une meilleure prise en charge du patient. Mais le problème, c'est quand on parle de prise en charge collective, il y a ce qu'on appelle l'émergence du secret partagé. Quand on parle de secret partagé, même dans la vie courante, un secret partagé...
N'est plus un secret.
Voilà, merci beaucoup Joseph. Donc il y a toute la question liée à la confidentialité au secret médical. Quand le secret est violé, qui est responsable de quoi? Il y a la question du respect de l'intégrité physique et mentale. Dans le code de déontologie, il y a ce qu'on appelle le principe de l'inviolabilité physique et mentale du patient. Ça aussi, c'est un sujet à débat en télésanté. Il y a tout l'aspect aussi lié à la symétrie de l'information. C'est quoi un consentement libre et éclairé? Un patient sur les limites de la technologie, sur justement cet ensemble de risques, parce que dans l'énoncé du Collège des médecins, le médecin maintenant est dans l'obligation d'énoncer tout ça pour le patient, à chaque fois. Et il faut qu'il ait une preuve de consentement du patient. Mais le patient, il va consentir sur quoi? Justement, c'est ça la question aussi. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce que le patient a compris aussi. Sur le point lié au recrutement et à la rétention des professionnels de santé, ça vraiment aussi, c'est un des éléments qui commence à émerger. Parce que une étude américaine, justement, assez importante, a sorti cet aspect, c'est que pas n'importe quel médecin peut pratiquer en zone rurale. Ça demande des qualités, ça demande des compétences particulières qu'il faut valoriser. Mais avec la télésanté, on se retrouve justement avec des déserts médicaux qui recrutent juste à tout va, donc avec le risque d'avoir des médecins qui n'ont pas les compétences requises à pratiquer dans ces milieux-là. Il y a ce qu'on appelle l'émergence des concurrences entre centres hospitaliers. Là, c'est cet aspect sorti dans une étude qui a été faite aux îles de la Madeleine, ici, en 2006. C'est qu'avec la télésanté, justement, on évite le déplacement, le transfert des patients. Mais avec le modèle économique, entre guillemets, qu'on utilise aujourd'hui, c'est que le centre hospitalier qui offre le service est gagnant par rapport au centre hospitalier qui est demandé un service. Parce que le centre hospitalier gardait le patient et ça coûtait cher de garder un patient. Alors que le centre hospitalier qui offrait le service, lui, il était rémunéré par rapport au service qu'il donnait sans avoir la charge d'avoir le patient. Donc c'est tout un tas de questionnements qui sont posés. Il y a aussi la question qui émerge aussi, c'est l'attention sur les niveaux de soins. C'est qu'il y a un bousculement énorme sur ce qu'on appelle la première, la deuxième ligne, la troisième ligne, parce qu'avec la télésanté, on peut dépasser directement la première ligne, parler à la deuxième ligne ou à la troisième ligne. Donc il faut même les corridors de service et tout ça, il faut toute une réflexion à ce niveau-là aussi. Afou tout à l'heure a parlé aussi de la concentration professionnelle en centre urbain. C'est une réalité. Nous, on l'a vécu dans un projet qu'on est en train d'évaluer, que je ne veux pas nommer parce qu'on est enregistré. C'est une réalité. Et les médecins, en fait, eux, ils se disent, pour nous, ça facilite justement la concertation entre spécialistes, on est entre nous, donc ça améliore nos diagnostics, mais on oublie qu'il y a toute une désertification de l'autre côté. On parle bien entendu des dérives justement de substitution, remplacement en région, solution de facilité. Avec ce problème de substitution, remplacement, on a une augmentation de l'ordre des cas en région. Ça veut dire qu'on a des hôpitaux en région qui se retrouvent avec des patients avec des comorbidités très lourdes qu'on n'est même pas capable de transférer parce qu'il y a un gros risque sur leur vie. Donc on est obligé de les garder, mais on n'a pas le personnel médical pour les prendre en charge. La question de l'effondrement des frontières géographiques, on sait très bien qu'on est dans une société mondialisée avec des échanges de données qui transcendent les frontières. Cet effondrement de frontières, il y a possibilité de consultation, par exemple, hors frontières, au Québec, par exemple, en France ou ailleurs. des médecins qui ont la possibilité de consulter des patients à l'extérieur du Québec, par exemple, ou des patients qui ont la possibilité d'aller consulter des médecins à l'extérieur. Ces problèmes, par exemple, au niveau d'un médecin qui pratique, qui veut consulter un patient à l'étranger, au Québec aujourd'hui, on considère que le lieu de pratique du médecin, le lieu de la tenue de l'acte médical est le lieu où pratique le médecin. Le Collège des médecins du Québec vient de changer son position parce que maintenant il considère que c'est le lieu où le patient est situé. Mais au niveau de la loi de santé et services sociaux de 2005, on considère encore que le lieu de l'acte médical est le lieu où est situé le médecin. Ça veut dire que pour un médecin, par exemple, de l'Ontario qui veut consulter un patient au Québec, on a tous les problèmes et les considérations liées au permis d'exercice. Donc chaque médecin, par exemple, qui veut consulter ailleurs, il doit demander un permis d'exercice dans la province. On parle juste à l'échelle transcanadienne, sans parler de l'extérieur. Ça veut dire qu'on a des médecins avec des situations actuelles qui sont obligés d'aller chercher 11 permis d'exercice. À l'état actuel des choses. Il y a toujours, bien sûr, des stratégies pour détourner ça, ou des consultations officieuses entre collègues, mais c'est une réalité. Si on ne cherche pas ces permis d'exercice, on est sujet à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Pour les patients, ils perdent de leur côté tout leur droit d'avoir recours en cas de faute professionnelle, parce que le médecin ne fait pas partie justement du Collège des médecins du Québec. Il est ailleurs, donc le patient perd ce droit, théoriquement. Donc il y a toutes ces considérations-là qui sont encore très, très suspendues. On parle bien sûr du lieu de dispensation de l'acte, flux juridique, responsabilité. Juste au jour du juge au Québec, juste pour donner un cas caricatural, si le patient est à Québec et le médecin est à Montréal, il y a une faute professionnelle hypothétique. Donc le patient veut porter plainte. Est-ce qu'il va la porter à Québec ou il va la porter à Montréal?
À Montréal.
Là, aucune idée.
Dans le Québec, en
termes de ville, ça, au niveau des villes, c'est vraiment le flou total. Donc on parle aussi, bien sûr, le déplacement virtuel du patient aux frontières, juridiction différente, donc exercice illégal de la médecine pour le médecin, etc.
Excusez-moi.
Oui.
Hors frontières, est-ce que vous parlez, comme parfois on entend parler, les médecins qui consultent, ben, surtout les spécialistes, par exemple, aux États-Unis, ils ont un réseau probablement, ils se consultent sur des cas?
Ça, en fait, à l'état actuel des choses, la majeure partie se fait, d'une manière informelle. C'est qu'un collègue...
Donc, ils parlent de maladies en général, mais ils ne parleront pas du...
Voilà, c'est ça. Ça veut dire que moi, je vous consulte en tant que collègue, on se connaît. Vous pratiquez par exemple aux États-Unis, moi je pratique au Québec. Je vais vous dire, voilà, j'ai un cas, telle chose. Vous me donnez le diagnostic, ok? Moi je sais que vous m'avez confirmé un diagnostic en tant que spécialiste, mais je n'ai pas le droit de le mentionner dans mon diagnostic. Ça veut dire je reste responsable du diagnostic que je donne.
Ah ouais, ok, ouais.
C'est ça, et ça change tout, parce qu'en termes de responsabilité, il y a aussi ce qu'on appelle, moi je suis responsable de mon patient, mais vous en tant que médecin spécialiste, sur-spécialiste, vous êtes responsable de votre diagnostic. Mais quand on passe par ces mécanismes informels, je reste aussi responsable de votre diagnostic.
Ouais.
Donc c'est ça.
Et aucune responsabilité.
Elle est là, aucune responsabilité. Parce que c'est un mécanisme informel. Un peu d'espoir. Ça va aller. Il y a aussi tout le risque maintenant où on voit émerger beaucoup de plateformes de télésanté, télémédecine en ligne, ce qu'on appelle la médecine au rabais. Il y a la délocalisation de la pratique médicale vers des pays qui n'ont ni les mêmes normes, ni les mêmes qualités de formation. Donc c'est à peu près ce qu'on appelle le tourisme médical maintenant qui commence à émerger, à fleurir, même en virtuel. Il y a des dérives des e-commerce médical aussi. Après, il y a toute la question, c'est qui garantit quoi en termes de droit et protection du patient aussi. parce que justement les passions et les états, certainement avec le contexte actuel, parce qu'il n'y a même pas de juridiction, en termes de droit international, il n'y a pas d'éléments qui permettent justement de traiter ou de moins baliser ces points-là au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que les états et les patients n'ont aucun contrôle sur l'information qui circule. Bien sûr, avec les risques de violation de la sécurité, avec les hackers, tout ça, là, c'est, il n'y a pas de sécurité vraiment parfaite.
Je ne me demande pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver.
Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand on... Maintenant, il y a ce qu'on appelle la loi du nombre, là. Ça veut dire qu'on fait partie de milliards de personnes qui se connectent, donc on a peu de chances que ça nous arrive. Mais le problème, quand ça arrive, comment on va gérer ça? Donc, il y a aussi tout un manque de transparence sur la façon dont l'information des patients sont gérées au jour d'aujourd'hui. Et parce que aussi les règlements sur la protection des données et les flux d'infos diffèrent selon les pays. Juste l'affaire de Google, par exemple, en Europe et aux États-Unis, au Canada, je pense que c'est un exemple caricatural de cette situation-là, en termes de comment on définit la protection des données. Le droit à l'oubli, par exemple, sur Internet. L'Europe dit, nous... C'est une obligation si vous voulez continuer à travailler chez nous, à faire des affaires. Alors que, par exemple, aux États-Unis ou ici, c'est... Donc, il y a toutes ces considérations-là qui sont encore soulevées aujourd'hui. Oui. Mais ce qu'on déplore, mais plutôt aussi parce que... c'est que la recherche aussi n'a pas suffisamment considéré ces éléments-là. Quand on a fait le tour de la littérature... il y a vraiment peu de travaux sur ces aspects-là. Ces éléments qu'on a identifiés, c'est à l'intérieur de travaux qui parlent d'autres choses, quasiment. À l'exception d'un certain nombre de travaux vraiment qui ont traité la question. Donc il y a tout un travail aussi, justement, à faire à ce niveau-là. Et il y a aussi, là, je pense que c'est plus une conclusion personnelle, parce que je crois vraiment à la place des technologies dans le domaine de la santé. J'y travaille d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un certain moment, il y a une domination d'un discours euphorique enchanté sur la place de tout.
On est dominé par les nerds, entre guillemets.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, il y a toute une vision enchantée sur la télésanté, la télémédecine, le dossier électronique vont régler tous nos problèmes, il faut juste les mettre en place. Mais après, on a compris qu'il y a des humains derrière, il y a des sociétés, c'est davantage. D'ailleurs, ma conclusion, c'est pas juste une innovation technique, mais il y a tout le culturel et le social derrière. Et Abelson, Julie Abelson de McMaster, qui a fait un très très bon article en 2013, justement sur cette question, que je trouve très très intéressante. Il a dit qu'il y a un écart entre la valeur instrumentale et les valeurs jugement des patients sur la vraie utilité de la télésanté. Je pense qu'elle résume vraiment, de la technologie en général, mais moi je l'ai traduit plus sur la question, mais je pense qu'elle résume vraiment l'état d'esprit sur la question aujourd'hui. Et merci beaucoup.